Chapitre 106. Mont Arara, camp kurde, Turquie. Au pied de Cortès, allongée contre le cadavre de son mari, la kurde râlait encore, mâchoire brisée, prise à espace régulier de spasmes violents. Son fils, toujours fermement retenu par son grand-père, bandait ses muscles de rage. Cortès laissa Cécile, Zach et Arsène pour s'intéresser à l'enfant. Il pencha son immense carcasse vers le garçon.
« C'est bien, petit. Laisse monter la haine en toi. La haine t'aidera toute ta vie. Il n'existe aucun sentiment qui pousse autant au dépassement de soi. C'est une valeur qu'on n'enseigne plus assez. »
L'éclat du cadran de sa Rolex scintilla dans la lumière des flammes.
« Mais je ne cesse de parler et personne n'ose me rappeler l'essentiel. »
Il fouilla dans sa poche et en sortit un collier, celui d'Aman, arraché au cou d'une morte aux yeux verts. Il fit osciller le rond de cuivre, tel un pendule, tenant le bijou par le cordon de cuir. Il s'approcha d'Esther et d'Aman. La mère et la fille étaient pressées l'une contre l'autre.
« Petite cachotière, »
dit-il enfin.
« Ainsi, votre misérable tribu kurde a conservé son secret pendant tous ces millénaires. Le secret des Nocs. La seule chose que les conquistadors venus du ciel ont laissé sur terre avant de partir, après avoir pillé la terre et violé les indigènes, leurs bâtards. C'est écrit depuis l'aube de l'humanité, Genèse chapitre 6. Les géants, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour femmes toutes celles qu'il leur plut. Elles leur donnèrent des enfants.
Il avança le collier vers la lumière du feu qui éclaira les deux traits gravés en croix dans le rond de cuivre, un long et un court. Aman semblait hypnotisé par le bijou oscillant au bout des doigts du mercenaire.
« La croix, » continua Cortès, « je ne vous apprends rien, professeur Parella, représente depuis toujours l'union des forces opposées, en particulier de l'homme et de la femme. C'est le cas dans presque toutes les religions du monde. » Les imbéciles pensent que ce symbole a été inventé par les chrétiens après que Jésus a été crucifié, alors qu'il était utilisé plusieurs siècles, plusieurs millénaires, avant qu'on ne cloue ce pauvre prédicateur.
Cortès se tourna alternativement vers Cécile, Esther et Aman, Arsène Parella, tout en poursuivant son monologue.
Savez-vous pourquoi les conquistadors, Cortès et les autres, ont pu si aisément exterminer les Aztèques et les Incas?
Il n'attendit pas la réponse.
Parce qu'avant l'arrivée des Espagnols, les Aztèques honoraient déjà la croix. On plaçait les nouveau-nés sous sa protection. Stupéfiant, non? Les conquistadors n'ont eu qu'à brandir leur propre crucifix pour être accueillis en sauveur, en Dieu.
Il marqua un silence, puis se baissa à la hauteur d'Aman, faisant danser le pendentif devant ses yeux.
Une croix, certes, mais celle-ci, conservée jalousement par votre tribu, est un peu différente et étrangement proche de celle que les chrétiens vénèrent. Une longue branche croisée avec une plus petite.
Il s'approcha d'Aman.
Alors, ma chérie, tu pourras répondre à cette question toute simple, je suppose. Si la croix qui protège les enfants représente l'union de l'homme et de la femme, que représente une croix dissymétrique, un grand et un petit trait?
La pièce de cuivre, tournoyant près des flammes, passait de l'ombre à la lumière, puis de la lumière à l'ombre. Cortès triompha.
L'union d'un géant avec une humaine, bien entendu. C'est tellement évident quand on y pense. Cette croix, accrochée au-dessus de millions d'églises partout dans le monde, au-dessus des tombes, des lits nuptiaux, à chaque coin de rue, comme une gigantesque blague. La preuve même qu'il n'existe pas un dieu, mais juste des barbares un peu plus évolués que d'autres, qui en profitèrent pour raconter deux ou trois légendes, exécuter deux ou trois tours de magie, le temps de voler aux races inférieures leurs richesses et leurs femmes.
Le mercenaire se remit à rire.
Vous ne croyez pas les hommes aussi crédules? Alors, réfléchissez à ce simple fait. Aujourd'hui, en Amérique latine ou en Afrique, des milliards d'êtres humains sont chrétiens ou musulmans. Simplement parce qu'il y a quelques siècles, Une poignée de missionnaires ont baratiné leurs ancêtres pour mieux les réduire en esclavage. Eh bien, ces barbares évolués, appelez-les comme vous voulez, néphilim, anges ou extraterrestres, n'ont rien fait d'autre avec notre pitoyable humanité à l'âge des cavernes. »
D'un geste brusque, Cortès jeta le collier dans le feu, puis il lança un regard dédaigneux sur le corps immobile de Zach. La main de Cécile, posée sur sa poitrine, bougeait à chaque respiration. Le mercenaire hocha la tête, puis s'immobilisa face à Arsène Parella.
« Mais je parle, et j'en oublie que nous devons nous lever tôt demain matin. »
Il leva les yeux vers le sommet de l'Arara, perdu dans la nuit.
« Je suis vraiment désolé, professeur, mais je vais être contraint de vous demander un service. Je dois reconnaître mon erreur. J'ai eu la gâchette trop facile il y a quelques heures. Je n'aurais pas dû tuer votre fils aîné. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais il est monté sur le sommet de l'Arara près d'une quarantaine de fois. Il était incontestablement le meilleur des guides possibles. Cela dit, quelle idée aussi de se coincer sous un 4x4. »
Arsène ne s'y a pas. Son visage de marbre ne laissait transpirer aucun autre sentiment qu'un mépris profond. Cortès enchaîna.
« Dans son état, impossible de compter sur Zach Ikabi pour me guider à plus de 5000 mètres. Il ne reste que vous, cher Arsène. »
Le tissu du turban se plissa sous la tension de son sourire de dément.
« Je me suis renseigné, professeur. Vous ne possédez pas seulement une connaissance théorique du mont Arara. Vous l'avez gravi des dizaines de fois. Il y a des années, certes, mais ces choses-là ne s'oublient pas. »
« Hors de question !» s'écria Cécile. Arsène Parella avança le bras vers la chercheuse pour la calmer. Il ne put cette fois retenir ses larmes. Elles se perdirent dans le labyrinthe de ses rides.
« Allons, docteur Serval, »
insista Cortès.
« Une bonne marche ne va pas tuer votre vieux professeur. Des centaines de touristes grimpent chaque année en haut de l'Arara, et la plupart sont bien moins en forme que lui. Voulez-vous m'obliger, pour le convaincre, à tuer ces pauvres Kurdes les uns après les autres ?»«
Vous le ferez de toute façon, » cracha Cécile.
« Un peu plus tard, et qui sait, si je trouve là-haut l'objet de mon désir, je serai peut-être clément. J'aurai besoin de témoins crédibles. »
Au moment où Cécile allait répliquer, Arsène Parella posa sa main avec tendresse sur son épaule et s'exprima d'une voix claire et calme. « Nous partirons à 5 heures du matin. Chaque homme devra disposer d'un piolet et de crampons pour franchir les névés, ainsi que de cordes, de fusils pour signaler sa position en cas de brouillard. Une fois au sommet, nous y resterons 15 minutes au grand maximum. » Cortès se redressa.
« Vous voyez, docteur Serval, le professeur Parella est beaucoup plus raisonnable que vous. 20 hommes monteront avec moi, Arsène Parella et 5 bergers. Zeytine restera au campement avec les 15 autres hommes. Le reste des Kurdes et leurs familles, ainsi que Zach Ikabi et vous. »